VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manilakiza en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Ravi d'être avec vous pour vous présenter cette édition. Il est 18h30, temps universel. Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui, vendredi 21 juillet 2017. Voici d'abord le sommaire. Ouverture à Abidjan des 8e Jeux de la Francophonie.
La Côte d'Ivoire peut gagner dans un premier temps. Pour qu'elle gagne, il faut qu'il y ait l'adhésion de la population.
Nous retrouverons Narita Namasté pour les détails. Côte d'Ivoire toujours, Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens et Alex, président Laurent Gbagbo pour une réconciliation nationale. Au Tchad, la défense de Mahama Abdoulkader Omar, alias Babalade, dénonce sa détention prolongée.
Tout accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation.
Nous suivrons le reportage d'André Kodmadjingar. En Mauritanie, l'opposition radicale boycotte le référendum constitutionnel du 5 août. Et restez branchés pour suivre l'espoir et votre actualité économique, bien sûr après le journal. Je vous le disais dans les titres, Abidjan a accueilli les 8e Jeux de la Francophonie. Ils sont 4000 athlètes et artistes de 53 pays à y participer. Ces jeux se déroulent sous surveillance après deux nouveaux incidents impliquant les forces de sécurité dans la nuit de mercredi à jeudi et qui ont fait un mort. Les détails, c'est dans la seconde partie de cette édition. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a demandé pardon aux Ivoiriens et à son principal adversaire du passé, l'ex-président Laurent Gbagbo, écroué depuis 2011 à La Haye. Le point avec Solange Nyamulisa.
Guillaume Soro a déclaré que la Côte d'Ivoire a plus que besoin de tolérance, de pardon, de réconciliation et de paix aujourd'hui. Il a demandé pardon pour tout ce qu'il a pu faire. Il demande pardon à ses aînés et même au président Laurent Gbagbo, à l'ancien président Henri Konan Bédié et à l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Il reconnaît que depuis 2002, il a été un acteur important. Guillaume Soro a été le chef de la rébellion pendant la décennie de crise politico-militaire qui a fait des milliers de morts et scindé le pays en deux. Il a été premier ministre, puis ministre de la Défense. Il est régulièrement accusé par ses détracteurs de comploter pour satisfaire des ambitions présidentielles. Il a encore une fois assuré que ce sont des rumeurs.
Et le nouveau ministre de la Défense ivoirienne, Ahmed Bakayoko, a promis fermeté et discipline peu après sa prise de fonction, après une nuit marquée par des échanges de tirs. Suivez M. Bakayoko au micro de Georges Ibrahim Tunkara.
Ça va être de la fermeté, ça va être un seuil de tolérance zéro sur les questions de discipline, sans arrogance, mais dans le contact, la compréhension, dans la gestion des hommes, se rapprocher de nos hommes, comprendre leurs préoccupations, accélérer l'amélioration de leurs conditions de vie et du travail, comme l'avait entamé mon collègue, demander plus de moyens. Vous voyez bien que même les grands pays comme la France, il y a des secousses au niveau des armées, donc ce n'est pas un phénomène ivoirien.
Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. En RDC, un témoin a reconnu hier dans une vidéo un des accusés jugés pour l'assassinat des deux experts de l'ONU dans l'Okassaï. C'était pendant l'audience du procès devant un tribunal militaire. L'ONG Global Witness estime que la RDC a perdu 750 millions de dollars de recettes fiscales entre 2013 et 2015 en raison de la corruption dans le secteur des mines. L'armée nigériane a affirmé aujourd'hui que le bombardement qui a accidentellement tué 112 civils en janvier dans un camp de déplacés du nord-est était dû à une erreur de marquage. Elle a estimé que les déplacés n'étaient pas censés se trouver à cet endroit. En Mauritanie, le président Mohamedou Ould Abdelaziz a lancé hier la campagne pour le référendum du 5 août. L'opposition bat campagne de son côté pour convaincre les Mauritaniens de boycotter ce qu'elle appelle une mascarade, n'est-ce pas, Salwa Jafari?
C'est devant une foule surchauffée dans un stade archi-comble de Nouakchott que le président Ould Abdelaziz a lancé son appel aux Mauritaniens pour un oui massif.
<t'en> Je vais visiter le pays avant de revenir ici à Nouakchott le jeudi pour un autre rassemblement. Nous devons vous expliquer les raisons qui nous animent pour faire ces changements à travers ce référendum. C'est important pour l'avenir de notre pays.
Le président mauritanien insiste entre autres sur la disposition supprimant le Sénat. Le Sénat qui a bloqué l'adoption du projet de constitution et bloqué le vote de plusieurs lois, dont le budget de l'État. La décision du président de passer outre en soumettant ce projet à référendum a provoqué la controverse dans le pays. L'opposition et des constitutionnalistes contestent la légalité de cette procédure. Près d'1,5 million de Mauritaniens sont appelés à se prononcer sur ces changements constitutionnels pour lesquels deux urnes sont prévues, l'une pour les principaux amendements et l'autre pour la modification du drapeau national.
On y revient dans notre partie magazine. Au Niger, le maire de Niamey, Hassan Seydou, a été révoqué hier, une semaine après une visite du président Mahamadou Issoufou dans la ville. Il avait reproché aux responsables municipaux leur insouciance incompréhensible face à la grande insalubrité et au manque d'assainissement de la capitale nigérienne. Et dans la page média, le gouvernement a rejeté les critiques de Reporters sans frontières. Niamey a affirmé qu'il n'interférera jamais dans une procédure judiciaire après la condamnation d'un journaliste à 2 ans de prison en début de semaine. Et Washington a fait don de 45 millions de dollars pour assister les réfugiés et déplacés de Boko Haram dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger. Le PAM risquait de suspendre son assistance humanitaire en raison d'un manque de financement. En Gambie, le ministre de la Justice a annoncé un référendum sur la Constitution dans un délai de 2 ans. Une commission de révision va consulter un large échantillon de la population pour refléter fidèlement l'opinion des Gambiens dans le pays et à l'étranger. Cette nouvelle Constitution marquera le début de la Troisième République. Nous passons au sida pour parler du sida. Paris accueille à partir de ce dimanche une conférence internationale de 4 jours sur le sida et va réunir quelques 6 000 spécialistes pour faire le point sur les avancées de la recherche en attendant de parvenir à éradiquer le virus ou à trouver un vaccin. Les détails de Jacques Aristide.
Ce sera la 9e édition de cette conférence scientifique sur le VIH organisée par l'International AIDS Society. L'événement, qualifié d'importance dans la lutte contre l'épidémie, mettra en avant les progrès réalisés au cours des 15 dernières années. L'an dernier, 19,5 millions de personnes sur les 36,7 millions qui vivent avec la maladie ont eu accès au traitement, soit plus de la moitié. Depuis 2005, le nombre de décès liés au sida a diminué de 48% dans le monde. Toutefois, pour Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, nous vivons des temps fragiles et les progrès accomplis peuvent être facilement effacés. En 2016, 1,8 million de nouvelles infections par le VIH ont eu lieu, soit une infection toutes les 17 secondes. L'OMS a qualifié de menace grandissante le développement de résistance aux antirétroviraux. 34 ans après la découverte du sida, il n'existe pas de vaccin et les personnes séropositives doivent suivre un traitement tout au long de leur vie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau vendredi de tension à Jérusalem, des heurts ont éclaté après la grande prière des musulmans près la vieille ville dont Israël a interdit l'accès aux Palestiniens d'au moins de 50 ans. Les détails avec Abdulrahman Dia.
À la porte des Lions, à proximité de l'esplanade des mosquées, des centaines de personnes, dont des dignitaires musulmans, se sont approchées. La police israélienne leur a signifié que seuls les hommes de 50 ans et plus seraient autorisés à passer. Des Palestiniens ont jeté des pierres et d'autres objets aux forces de sécurité qui ont tiré des grenades assourdissantes. À l'origine de cette montée de tension, l'installation de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées, décidée après une attaque meurtrière contre des policiers israéliens le 14 juillet dernier. Ces nouvelles mesures de sécurité ont ravivé les craintes des Palestiniens de voir Israël prendre le contrôle exclusif du troisième lieu saint de l'islam, un site également révéré par les Juifs sous le nom de Mont du Temple. L'esplanade des mosquées, où se trouve le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, est située dans le secteur palestinien de Jérusalem, dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.
Le président américain Donald Trump a nommé un nouveau directeur de la communication pour la Maison-Blanche. Il a choisi Anthony Scaramucci, dirigeant dans Société d'investissement. Dans la foulée, son porte-parole, Sean Spicer, a démissionné pour profond désaccord avec ce choix. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique. Suivez la Muniteco signée d'Elie Diko.
Nigeria, le gouvernement fédéral va injecter 2,9 milliards de dollars dans la construction de logements. Cette initiative entre dans le cadre du programme nigérian pour l'habitat social afin de répondre au manque de logements et de stimuler la croissance économique. Ce programme sera développé par un partenariat public-privé et le projet devrait aboutir à la construction de 2,5 millions de logements à base de matériaux locaux. Guinée, les autorités vont dédommager les expropriés de Demoudoula, titulaire d'un titre foncier. L'indemnisation n'est donc soumise qu'à une seule condition, la possession d'un titre de propriété. Elle concerne les populations du domaine de la forêt classée de Demoudoula, dont les habitations ont été détruites dans le cadre de l'opération lancée le 13 juillet dernier. Ghana, selon un rapport publié par l'Economist Intelligence Unit à Accra, l'économie ghanéenne devrait progresser de 6% de 2017 à 2021. En 2016, la progression de l'activité économique n'était que d'1%, le plus faible taux de croissance en une décennie. La perspective de croissance positive pour les 4 prochaines années s'explique par le développement des secteurs de l'énergie, des infrastructures et aussi par l'assainissement budgétaire.
Et nous passons directement au sport. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On ouvre avec les Jeux de la Francophonie à Abidjan, Côte d'Ivoire. Défaite d'entrée pour les éléphantaux.
Tout à fait, la Côte d'Ivoire s'est inclinée ce matin 2-3 devant la Guinée. Dans l'autre opposition, le Burkina et le Liban se sont neutralisés 1-1. Les étalons ont ouvert le score à la 36e par Modi Cissé avant de se faire rejoindre en fin de match à la 90e. À suivre également ce vendredi, Cameroun, Mali et Congo, Niger.
Et une nouvelle règle à la CAF, on ne peut plus être président de la Confédération à plus de 70 ans, n'est-ce pas?
Effectivement, c'est ce qui ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la CAF qui vient de se tenir à Rabat. Au point de la réforme des statuts, désormais les membres africains du Conseil de la FIFA sont membres de plein droit du comité exécutif de la CAF. Les mandats de membres du Conseil de la FIFA et du comité exécutif de la CAF ne sont plus cumulables. Le nombre de commissions permanentes a été revu à la baisse, passant de 19 à 11.
Et le Cameroun est obligé de revoir ses plans après les résolutions du comité exécutif de la CAF.
Oui, le Cameroun annonce 5 sites et non plus 4 pour accueillir la CAN 2019, le nombre d'équipes participants étant passé de 16 à 24. Désormais, on aura 2 sites à Yaoundé, le complexe omnisport de 40 000 places et le nouveau stade de 60 000 places en construction. Douala, Bafoussam et Garoua abriteront chacun un site. Les Camerounais ont toutefois 5 mois supplémentaires pour terminer leurs travaux, la CAN se disputant désormais en juin et juillet et non plus janvier et février.
À présent, Yacouba, match retour des éliminatoires du CHAN Kenya 2018, Sénégal-Sierra Leone en banlieue dakaroise par dérogation.
Oui, suite à l'incident meurtrier qui a eu lieu samedi dernier à Dakar, les autorités sénégalaises ont suspendu toute manifestation sportive jusqu'à la fin de la campagne électorale. Exception pour leur match au retour, les Lions locaux de la Teranga vont recevoir les Sierra Leone à Bikim en banlieue dakaroise ce samedi. Les deux équipes s'étaient neutralisées 0-0 au match aller. Autre rencontre, les Guinéens de Conakry tenteront d'achever le boulot à domicile face à ceux de Bissau qu'ils ont défait au match aller 3-1.
Et on termine avec du cyclisme. Boasson Hagen s'impose à la plus longue étape du Tour de France.
Oui, le Norvégien a sauvé le Tour de France de son équipe en remportant la 19e étape en Brun Salon de Provence 222,5 km. Le Britannique Chris Froome conserve le maillot jaune à la veille du contre-la-montre de Marseille et à 2 jours de l'arrivée finale.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Eric Manirakiza pour vous présenter les dossiers du jour. Première destination, le pays du cacao. Abidjan, perle des lagunes, devient la capitale des 8e Jeux de la Francophonie. Durant 10 jours, ces Jeux vont susciter l'appétit du monde sportif et culturel de l'espace francophone. Des Jeux s'ouvrent sur fond de tensions militaires dans le pays. Le point avec Narita Namasté, notre correspondante à Abidjan.
Les 8e Jeux de la Francophonie s'ouvrent officiellement ce vendredi en début de soirée à Abidjan, en présence du président Alassane Ouattara, dans un contexte de série de mouvements d'humeur militaire. Ismaël Sanogo estime que le moment n'est pas opportun.
La francophonie est une tribune qui permet la communion de beaucoup de nations pour mettre en place une symbiose au niveau de la francophonie. Mais nous pensons que cela se déroule dans une atmosphère un peu délétère, parce que le pays même qui accueille, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, est actuellement en pleine ébullition. Et donc, cela fait que, en tant que Ivoirien, nous jugeons que le moment n'est pas opportun.
Ismaël Sanogo reste pessimiste sur les retombées de ces jeux pour son pays.
La Côte d'Ivoire peut gagner dans un premier temps. Pour qu'elle gagne, il faut qu'il y ait l'adhésion de la population. Or, actuellement, la population est un peu apeurée, la population n'est pas contente, la population est un peu timorée.
Véronique Kouakou, coiffeuse, a une vision tout à fait inverse. Une vision optimiste de la francophonie économique, mais surtout à long terme pour son pays.
Le jeu de francophonie, c'est bon pour la Côte d'Ivoire, parce que quand ils vont finir de faire, les stades, les hôtels restent toujours pour la Côte d'Ivoire, ça peut aider la Côte d'Ivoire. Donc, au moins, c'est pas du gaspillage.
La Côte d'Ivoire se servira de la grande visibilité qu'offrent les jeux de la francophonie pour mettre en évidence ses atouts. Les jeux d'Abidjan génèrent des avantages sur le plan économique, comme nous le confirme Roger Banco, styliste, qui a déjà confectionné plus de 1000 tenues avec des colorations traditionnelles.
Dans notre domaine, en tout cas aujourd'hui, nous sommes en train de boucler tout ce qui est vêtements et tout ce qui est vêtements à l'effigie de la francophonie et autres. Donc je peux dire que c'est maintenant, en tout cas, qu'on sent qu'il y a la francophonie chez nous.
Le chef d'État ivoirien Alassane Ouattara a exhorté les Ivoiriens à plus d'hospitalité vis-à-vis des délégations étrangères. Près de 4000 athlètes et artistes issus de 84 pays sont annoncés à ce rendez-vous sportif et culturel qui mobilisera 700 journalistes pour 500 millions de téléspectateurs. Narita Namasté à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Dans le Sahel, c'est parti pour la campagne en vue du référendum du 5 août en Mauritanie. Le président Mohamedou Ould Abdelaziz s'est exprimé hier devant des milliers de ses partisans et appelé à voter oui à la modification de la Constitution. L'opposition radicale, elle, appelle au boycott. Pour analyse, Abdulrahman Dia a joint à Nouakchott l'éditorialiste Fall Omer.
Il y a un gros intérêt parce qu'il y a des enjeux qui sont d'abord celui de la participation, parce qu'il y a un groupe de l'opposition et non des moindres qui a prôné le boycott, qui a décidé de boycotter ces élections et de ne pas y participer. Sur un deuxième plan, il y a effectivement le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'acceptation ou non, c'est-à-dire le oui ou le non, parce qu'il y a un parti, au moins un parti, qui vote le non ou qui parle le non, un parti d'opposition. Troisièmement, sur le contenu aussi de ces réformes proposées, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses nouvelles, comme la suppression du Sénat, son remplacement par les conseils locaux.
Est-ce que vous pensez que l'opposition dite radicale avait vraiment raison d'appeler au boycott? Pourquoi ne pas simplement battre campagne pour le non si elle n'est pas d'accord?
Moi, je suis un éditorialiste qui a toujours prôné la participation, parce qu'en démocratie, on ne peut pas continuer à boycotter la participation à des processus démocratiques, surtout qu'il n'y a pas de, à mon avis, ou ce qu'on voit, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que vous boycottez si vous pouvez bloquer les choses, si vous pouvez bloquer la rue, bloquer la vie, mais rien de tout ça. Ce référendum va passer. Parce que même avec un taux de participation minime, ça n'a jamais été une délégitimation d'un processus référendaire.
Pourquoi le président Abdelaziz s'implique autant sur cette campagne alors que s'il s'agit de son dernier mandat?
D'abord, je pense qu'il entend laisser un héritage politique, quelque chose de nouveau qui sera son brevet à lui. Deuxièmement, s'impliquer lui-même, c'est sans doute, parce que son personnel politique est aussi calant. Enfin, il est obligé lui-même chaque fois de monter au créneau pour recadrer les choses, pour replanter les décors. Mais essentiellement, je crois que sa volonté, son ambition, c'est de laisser quelque chose à la Mauritanie après son départ.
Le débat pour un troisième mandat ne se pose pas en Mauritanie comme dans d'autres pays africains en ce moment, non?
En fait, il ne se pose pas dans la mesure où lui-même, il a dit et répété qu'il ne le cherche pas. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des soutiens à lui qui disent « bon, il faut un troisième mandat, etc. » Mais ce n'est pas, ça ne se pose pas.
L'analyste politique et éditorialiste Fall Omer au micro de Abdelrahman Dia était joint à Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Restons dans le Sahel, mais au Tchad, le général Mahama Abdelkader Oumar, alias Babalade, qui veut dire lion de la forêt, est en détention à la maison d'arrêt de haute sécurité de Korotoro, dans le nord du pays, depuis janvier 2015, sans aucune forme de procès. Le collectif de ses avocats dénonce cette détention prolongée à travers un point de presse. André Kodmajingar a les détails.
Pour mémoire, en exil à Bangui depuis 2002, le chef de guerre tchadien, le général Mahamat Abdelkader Oumar, alias Babalade, était rentré au pays en 2012 suite à un accord politique conclu avec le président Déby. Aussitôt rentré, il a été nommé conseiller chargé des missions à la primature, puis préfet du département de la Grande Sido. Et c'est en décembre 2014 qu'il a commencé à avoir des ennuis avec le même pouvoir. Sa résidence avait été encerclée par le service de sécurité, mais il a échappé à nouveau pour se réfugier à Bangui. Arrêté en décembre 2014, les autorités centrafricaines de la transition à l'époque l'ont estradé le 12 janvier 2015 par les soins des éléments de la MINUSCA. Entendu par le juge d'instruction, il a été transféré à Korotoro et jusqu'à ce jour, son procès tarde à avoir lieu. Maître Jean Sirina, l'un de ses avocats, dénonce cette détention sans jugement.
Nous voulons rappeler ici que tout accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation. Lui, il était prévenu à Bangui, présenté devant un magistrat qui a ouvert une information judiciaire contre lui. En ce moment, il prend l'appellation d'inculpé. C'est donc différent d'un condamné. Et nous précisons aussi que notre client est malade, puisque nous avons ici le rapport médical établi par un médecin qui dit que ce citoyen-là a besoin d'un suivi spécifique d'un médecin attitré.
Maître Alain Kagombe, membre du dit collectif, interpelle les hautes autorités de la République sur cette détention qu'il qualifie d'illégale.
Même le juge d'instruction qui a la charge du dossier ne sait pas qui l'a fait partir à Korotoro. Si il y a quelqu'un qui nous entend quelque part et qui a la possibilité de faire avancer la procédure, que cette procédure avance. Sa famille dit qu'elle n'a pas la preuve de sa vie. Qu'on le ramène à N'Djamena pour que le juge d'instruction qui a la charge du dossier puisse examiner l'affaire. Qu'on le ramène à N'Djamena pour qu'il puisse avoir droit au soin.
Selon l'accord signé en 2012 avec les autorités de N'Djamena, il a été convenu de transformer son mouvement politico-militaire en un parti politique. Le dossier qui a été engagé sous l'appellation du FPR, Front Populaire pour le Redressement, mais les autorités refusent de donner l'autorisation de fonctionner alors que le ministère en charge a 45 jours, selon les textes de la République, a donné suite. Lombaï Bekoutou est le vice-président du FPR.
Ce dossier nous a été rejeté au motif que notre président est en prison. Et nous, on a réagi pour dire qu'il n'est pas condamné à cette recherche. Donc, à ce titre, nous considérons que notre parti est légal et que nous devons fonctionner.
André Kodima Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Et avant de nous quitter, cap sur le géant des Grands Lacs, la RDC, pour parler d'un rapport sur l'enrichissement de la famille du président Joseph Kabila. Le groupe de recherche pour le Congo à l'Université de New York, auteur du document, estime que le chef de l'État congolais n'est pas le seul, mais qu'une partie de l'élite congolaise, y compris dans l'opposition, est dans le même sac. Eddie Sango a joint le chercheur du groupe de recherche pour le Congo, Jason Stearns.
Ce n'est pas seulement la famille Kabila. Il y a beaucoup de gens qui ont prospéré, y inclus dans l'opposition. Si on voit par exemple le chef Moïse Katumbi, si on fait un peu écrire un rapport, je pense qu'il ne serait pas très très différent que du rapport qu'on a vient d'écrire sur la famille de Kabila. Donc, ce n'est pas, je pense qu'il est facile de se perdre dans le sensationnel avec ce rapport, mais je pense qu'il faut vraiment, ce que nous voulons surtout souligner, c'est les problèmes structurels d'une économie qui bénéficie quelques milliers de personnes, mais qui laisse dans la pauvreté des millions de personnes, et une économie qui manque de transparence et redevabilité, et qui compromet sérieusement la démocratie congolaise.
À combien vous estimez cette richesse accumulée par la famille du président Kabila?
Ils ont plus de 90 francs compagnies qui les appartiennent. Évaluer la valeur de ces compagnies, c'est plus difficile. Ce que nous savons, c'est que des centaines, des millions de dollars sont passés dans ces compagnies en termes de revenus depuis 2003 et qu'on peut évaluer la valeur de leurs avoirs au moins dans les dizaines de millions de dollars. C'est très conservatrice comme estimation, je pense. Nous soulignons plusieurs questions sérieuses, notamment la façon dont ils ont acquéri ces compagnies et les possibles conflits d'intérêts qui pourraient exister entre les membres de famille et leurs affaires. Il y a des questions sérieuses que le Parlement et le système judiciaire congolais devraient se poser.
En réaction à cela, les porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, dit que la Constitution n'interdit pas au président de la République ni à sa famille.
C'est en partie vrai, en partie faux. La Constitution interdit au président Kabila de mener certaines affaires qui pourraient poser un conflit d'intérêts. D'ailleurs, tout membre du gouvernement, tout fonctionnaire public au Congo est interdit d'entrer dans les affaires qui pourraient poser un conflit d'intérêts. Comment ça se fait que maintenant ils ont des compagnies qui incluent des concessions diamantifères qui s'étendent plus de 720 km long de la frontière avec l'Angola? Ils ont une partie du fabrique textile le plus grand du Congo. Ils ont des actions dans la compagnie du téléphone le plus important, Vodacom, en RDC, et j'en passe. Donc, il y a des questions, je pense, sérieuses à se poser par rapport à cela, mais nous ne disons pas dans le rapport que nécessairement ce qu'ils ont fait était illégal. Nous ne disons pas nécessairement ce que c'est de la corruption. Ce que nous voulons faire, c'est mettre au jour, à la lumière de tout le monde, leurs avoirs.
Jason Stearns, chercheur du groupe de recherche pour le Congo.
Salut les amis, c'est Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa. Yo,
tolo e Omoni kolinga mi banya bato e Elunga na yo
Oui, vous l'avez suivi, nous sommes vendredi soir, le morceau choisi par Lionel Gahima, l'enfant de Kin, et Sopio Awilo Longoma. Et c'est la fin de cette édition. Tunanira Gahima, la mise en onde à la console Taraware, à la présentation avec Manira Kiza, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact avec, restez branchés sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com. À bientôt.